Venez avec moi au réservoir de Bethesda. Cette prédication s'inscrit dans celle que nous avons commencée la dernière fois en faisant ressortir l'aspect bénéfique de la Sainte Cène au sujet de notre santé, de notre bien-être. Et donc elle s'inscrit dans le cadre de la reconquête de ce que l'ennemi a volé. Si nous estimons que la perte de notre santé, la maladie est un vol de la part de l'ennemi, nous comprendrons aisément ce qu'il convient de faire. Si quelqu'un te vole quelque chose, tu ne resterais pas les bras croisés, mais tu repartiras à la conquête de ce que l'ennemi a arraché. Et nous allons examiner la parole de Dieu qui va nous conduire dans les profondeurs des choses. Non seulement il s'agit de la santé de notre propre corps, mais de la guérison de notre âme et de notre esprit. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain de la même manière qu'il a créé un animal ni une plante. Un animal, il est animé dans son corps. L'être humain, il est tripartite, créé à l'image de Dieu. Et toutes les dimensions de son être doivent être suspendues à la promesse et à la grâce du Seigneur. La Bible présente la miséricorde comme un aspect essentiel, sinon fondamental, du caractère de Dieu. Elle exprime sa volonté de pardonner le pécheur et de venir à son secours, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses. Il est dit dans le livre des Éphésiens, et je cite, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » Fort de cette promesse, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ceci étant dit, la Bible est pleine d'illustrations pour nous amener à saisir du doigt cette promesse. Et nous allons lire un texte dans Jean, chapitre 5, versets 1 à 9, d'une part. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, des boiteux, d'estropiés, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Cet épisode est tracé uniquement dans l'évangile de Jean, dans une ville dont le nom signifie lieu de grâce, maison de miséricorde. Le paralytique qui était là ne peut y participer aux activités qui sont à côté du temple, parce que le temple se trouve à quelques encablures de là où se trouve cette piscine à propriété thérapeutique. Car selon la loi des Juifs, un estropié, un paralytique n'a pas le droit d'aller dans le temple. Voyons ensemble ce matin quelles en sont les promesses qui s'y trouvent et quel est parfois l'écueil ou le danger dans lequel, même étant devenu chrétien, nous pouvons y tomber et passer à côté de la grâce de Dieu. Premièrement, comprenez que c'est à côté de la porte des brebis que cet événement se produit. Et le Saint-Esprit ne se trompe jamais sur l'appellation et les lieux. Nous sommes tous les brebis du Seigneur. S'il y a une qui se perd, il est capable d'abandonner les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Nous voyons l'importance du lieu. Et la piscine, que je disais tantôt, est à côté du temple où se déroulent les activités de la société, des fêtes, où on entend parfois des cris joyeux auxquels le paralytique n'a pas droit, il n'entend que de loin. Un grand nombre de malades s'y retrouvaient. C'est un endroit où se rassemblent ceux qui sont des cas médicaux désespérés. Ceux pour qui la médecine ne peut pas faire grand-chose ou qui a tenté plusieurs choses, mais sans résultat. Ceux pour qui la médecine scientifique s'est déclarée impuissante. Ceux parfois qui se retrouvent au stade terminaux, comme on le dit. Ils mouraient, sauf si un miracle se produisait. Oui, en effet, s'agissant des miracles, il s'y produit de temps en temps. Mais à quelles conditions? C'est que l'eau de la piscine puisse être agitée par un hypothétique ange qui vient périodiquement, de temps en temps. Et encore, la possibilité d'être guéri n'est pas offerte à tout le monde. Celui qui est le plus agile, il tombe le premier. Mais notre impotent couché, qui n'a que pour spectacle le ciel devant lui et les nuages. Deuxième. Le passage que nous venons de lire, il fait le zoom sur un homme malade, pas comme les autres. D'abord par la durée de la maladie, 38 ans, figurez-vous. À quel âge est-il malade pour qu'à 38 ans, il est encore couché, esselé? Il semble avoir tombé, il semble être tombé dans la société, mais il apparaît comme quelqu'un qui est abandonné. Un malade qu'on a déjà rangé dans la catégorie de ce qu'on appelle les laissés pour compte. Quand on est dans une telle situation misérable, comme cet homme, on subit plusieurs regards, plusieurs types de regards. On subit le regard de son entourage, qui pourrait être un regard de condamnation. Il subit le regard de la loi de l'époque, qui le pointe au coin des bien portants. Ta place n'est pas là, mais ta place est ici. Dans son cas, sans doute, il se voit lui-même à ses propres yeux comme une cause perdue. Dans son cœur, blâme-t-il la nature de la faire venir au monde pour vivre de cette manière-là? Ce monde qui semble le rejeter, vu le poids de la solitude, en raison de cette maladie qu'il traîne pendant 38 ans, encore et encore, jusqu'à cette rencontre avec Jésus. Et que dire de souffrances intérieures? Il y a des souffrances qu'on ne voit pas. Comme un poisson au fond de l'eau qui pleure et personne ne sait pas s'il pleure ou s'il ne pleure pas. Seul Dieu le sait. On pourrait affirmer sans risque de se tromper que cet homme doit être un croyant. Mais il croit à quoi? Il croit à qui? Être croyant ne signifie pas qu'on croit en Dieu. Ce mot n'est pas juste être croyant. Chrétien, oui, je comprendrai. Enfant de Dieu, oui, je comprendrai. Mais je savais que dans la ville de Gascogne, il y a des gens qui croient aux oignons et qui l'adorent. Dans mon pays, parfois, il y a des gens qui croient aux éléphants, aux panthères, aux rapalmistes, qui les adorent, qui semblaient leur apporter la vie, la paix. Et dans notre société, il y a des gens qui croient aux horoscopes, aux zodiaques, aux signes. Que parfois, dans votre voiture, vous vous empressez d'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire. Et les hommes politiques, plus. J'en connais un homme politique qui doit consulter une dizaine de bonnes aventures avant d'aller au conseil des ministres, prendre des décisions. Et parmi nous, il y a des gens qui consultent les diseurs de bonne aventure. Dieu nous l'interdit. À quoi croyez-vous? Ce croyant-là, à quoi il croit? Mais nous pouvons avoir quelques éléments pour savoir quelle est la nuance de sa croyance. Et pour qui croit-il? Il croit au miracle de la part de Dieu. Sinon, il ne serait pas là pendant 38 ans. Vous croyez parfois à la superstition? Quand une foi chrétienne n'est pas bien établie, elle devient superstitieuse. La superstition gangrène la foi chrétienne. Elle la rend poreuse. Elle n'est pas vigoureuse. Elle n'est pas conquérante parce qu'elle est mollasse, rongé par la superstition. Voilà pourquoi Jésus a passé le clair de son temps à traiter la foi par la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de du Christ. Chez lui, la souffrance a tellement duré qu'il en est venu à croire en n'importe quel type de miracle, pourvu qu'il se remette debout. Et ça peut nous arriver parfois. On voit chez les médecins, à gauche, à droite, diagnostic médical, soins, par-ci, par-là. Et on a l'impression que rien ne bouge. Alors, il faut aller chercher le rebouteux, aller voir à côté, s'il peut nous soulager. Puisqu'on ne tue pas, on ne tue personne, bon, mais si c'est pour nous soulager, on peut le faire. C'est un mensonge. Un mensonge du diable qui tente de tordre le chemin de nos cœurs, de tordre le cœur des enfants de Dieu. On est amené à admettre la présence de ce mensonge et on s'y accoutume, on se fait une raison. On peut parfois dire que cette maladie, depuis longtemps, il n'est pas parti. Peut-être il est voulu par Dieu. Peut-être j'ai commis une faute que le Seigneur est en train de faire la pénitence, qui est une conception erronée sur le plan spirituel. Pas de pénitence. Si vous vous faites la pénitence, l'œuvre de Christ, c'est pour qui alors? Et n'admettez pas seulement un instant une telle pensée. Si vous êtes dans un cas ce matin, ce message est pour vous et pour nous tous. Dieu veut poser des fondamentaux à son Église. Dieu veut soulever cette maison que nous appelons Église pour mettre des fondamentaux durs, résistants, pas sur du sable, mais sur le rocher, qui est la parole du Christ. Enfin, ce serait sur cet homme que le regard de Jésus va se porter. Cet homme malade depuis 38 ans, toujours couché, dépendant de la bonne volonté de ses voisins, juste pour le porter jusqu'au bord de la piscine, et que le hasard puisse faire le reste. Est-ce votre cas ce matin? Attendez-vous à un miracle de Jésus? Jésus te voit. Il te voit important. Jésus le Seigneur connaît tout de toi. C'est par lui, la parole incarnée, que toute chose a été créée. C'est par lui que les atomes de ton corps, les cellules de ton corps, les tissus de ton corps, les organes de ton corps ont été formés pour te donner ce corps matériel. Il a connu les détails. Et aujourd'hui, quand je parle avec le souffle de l'esprit, tout ton être écoute ce message. Et que la parole de Dieu qui est esprit et vie entre en action. Peut-être pendant le message, le souffle de la guérison te pénètre. Le désir de prendre des comprimés que tu as envie de prendre avant, ce désir-là va s'amenuiser. Laisse-toi aller. Peut-être c'est la volonté du Seigneur. Parfois on croupisse sur les médicaments et c'est les médicaments qui font davantage de tort à notre corps plutôt que la main de Dieu. Les médicaments ne sont qu'une parcelle de la connaissance du Seigneur. Et les médicaments soignent. Soignent. Dieu, lui, il guérit. Il guérit. Il connaît la densité de tes luttes intérieures. Il connaît tes frustrations. Ça fait longtemps que tu pries pour une situation, finalement, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu en es arrivé à te demander, mais ce Dieu dont on parle, il est historique ou il est vrai? Je peux t'affirmer qu'aussi vrais sont tes problèmes, Dieu est aussi vrai matériellement. Comme il est esprit, il se manifeste que par sa parole. Et c'est vers sa parole qu'il te conduit. Voilà pourquoi la Bible a dit que Dieu envoya sa parole et les guérit de toutes leurs maladies. Il est écrit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et les soupirs de mon cœur ne te sont pas cachés. Lui, Dieu, il connaît la fin avant le commencement. Il sait tout de toi. Jésus savait que pour cet homme, il n'y a aucun espoir de guérison. Il connaît tes attentes aussi. Et sans doute, il a dû prendre la mesure de ses frustrations. Il sait très bien ce qui adviendra à cet homme sans le secours du ciel. Car pour lui, la médecine scientifique a baissé les bras. Jésus l'ayant vu. Ah, c'est un mot fort. Jésus l'ayant vu, couché. Les yeux vers le ciel, c'est comme s'il attendait que le ciel s'ouvre et qu'une pluie guérissante, miraculeuse, lui tombe dessus. L'ange qui vient parfois de manière épisodique fait bouillir l'eau pour qu'il ait sa propriété thermale, la propriété guérissante. Si l'ange vient et le secoue l'eau, c'est pas lui qui est le premier bénéficiaire. Encore une fois de plus, ça accentue ce sentiment de solitude. Parce que quand il a envie de faire le tour, quelqu'un l'a déjà précédé. C'est pour dire que même parmi les malades, les handicapés, les impotents, il y a la compétition. Compétition partout. Ça accentue le sentiment d'incapacité, de solitude. Mais quand Jésus nous voit, savez-vous qu'il ne nous voit pas comme les autres ? Quand Jésus nous voit, il ne nous voit pas comme le monde. Quand Jésus te voit, il ne te voit pas ce matin comme un numéro de sécurité sociale. Il te voit corps, âme, esprit. Les détails de tes vies sont entresemés. Avant que tu sois formé, Jésus connaît le nombre de jours que tu vas vivre. N'a-t-il pas dit dans sa parole ? Que de la poussière, Dieu retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage le trône de gloire. Voilà notre héritage. Et ça, l'ennemi ne veut pas que tu l'aies et que tu la vives. Voici les raisons de tes combats. Ainsi, là où moi je vois le péché et la condamnation, Jésus, lui, il voit le pardon et la grâce. Là où le diable voit la maladie et la destruction, Jésus, lui, y voit la restauration et la santé. Là où le monde déclare que c'est fini pour toi et qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, Dieu te dit ce matin, le projet que j'ai formé pour toi est un projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. C'est Dieu qui parle là. Celui qui parle là, il ne peut pas à la fois t'envoyer la maladie pour t'éprouver en te disant qu'il est le Dieu qui te guérit. Dieu n'est pas schizophrène. Dieu, il dit une chose qu'il pense, et une fois qu'il pense, il le fait. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant sur les maladies. Il surplombe la science médicale avec son peu de connaissances. C'est vrai que la science médicale, c'est les hommes qui l'ont fait. Et la plupart de ceux qui sont des médecins, dans leur découverte, ne sont pas des chrétiens. Dieu merci pour certains médicaments qui ont permis de repousser la limite de certaines maladies, mais la connaissance de l'homme reste toujours une connaissance partielle. Il y a des maladies qu'il continue à découvrir. Il y a des choses dans la nature qu'ils n'ont pas encore finalement découvert. Mais Dieu, lui, il a créé toutes choses, il le sait. Il le sait. Les maladies qui sont envoyées vers nous comme des bombes à fragmentation. Parfois, à un moment donné, la maladie révèle un visage, et à un moment donné, on lui donne Covid-19, Covid-10, Covid-40, Covid-140, et puis après, une autre maladie vient, on lui donne des noms. Mais Dieu sait déjà. Dieu sait déjà. Il a anticipé par la mort de Jésus à la croix. En sachant bien qu'il était malade, on en arrive là. Je me dis, Seigneur, tu es fort. En sachant très bien, Jésus savait très bien qu'il est malade. Il vient lui poser la question, veux-tu être guéri? Quelle serait votre réaction si Jésus vous posait une telle question? C'est ce qu'on appelle la question fermée. On répond par oui ou par non. Mais voilà. On se pose pourquoi une telle question? Jésus connaît bien la réalité de cet homme. Il connaît son état. Mais le malade va lui répondre. Seigneur, il commence à argumenter. Souvent c'est ça, hein, on argumente. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Waouh. Je crois que Jésus ne se trompe pas quand il pose cette question. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore étudiant à Montpellier, on faisait partie de jeunes étudiants chrétiens qui travaillent dans les campus. Et dans notre groupe, il y a un jeune homme handicapé des mains avec lequel on a assisté à une croisade, on dirait que quelqu'un qui avait un ministère de puissance, comme on le dit. Et il a exposé la parole de Dieu, il en est arrivé à appeler aux gens qui sont handicapés, infirmes, s'ils veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Et il s'appelle Samuel, curieusement. Je lui dis, Samuel, lève-toi. Il a dit non. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, je t'expliquerai les raisons après. La séance est terminée, je suis venu vers Samuel, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu te lever et recevoir la guérison de Dieu? Il me dit, tu veux que je fasse quoi là? Ça, la sécurité sociale me donne de l'argent pour ça? Tu veux que je sois guéri et si je guéris, je n'aurai plus rien? Il y a des gens qui sont des malades professionnels. Ils ne veulent pas être guéris parce qu'ils savent que leur malheur leur apporte quelque chose. Tu sais quel bénéfice tu aurais si ta main était active? Jésus n'a-t-il pas guéri quelqu'un qui avait une main impotente pour lui rendre l'activité de sa main? Parfois, Médecins sans frontières va en Afrique. Et souvent, ils soignent les gens qui ont le glaucome, là, des problèmes d'yeux. Ils ne voient jamais rien, mais ils cherchent. Même dans leur malvoyance, ils se rentrent en compétition. Qui est le premier pour aller voir le médecin? si on rentrait en compétition comme ça pour les grâces du Seigneur, combien ce serait merveilleux. L'Église de Dieu aurait pu avancer énormément. Faisons des compétitions dans la lecture de la Bible. Faisons des compétitions dans les connaissances des versets bibliques. Faisons des compétitions dans la prière et l'adoration. Ben, ce serait super. L'Église ne sera pas à ce niveau-là. Je n'ai personne pour s'intéresser à moi. C'est un esprit orphelin qui parle là. Et je n'ai personne pour prendre en compte mon cas. Ma situation est désespérée. Alors je vais aller vite. J'ai fini mes demi-heures. Si vous me le permettez. La volonté de Dieu est que chacune de ses créatures jouisse de l'intégrité physique, soit en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de... C'est la parole de Dieu, ça. Dieu ne méprise pas le corps physique. En effet, il faut reconnaître que le christianisme antique, dans un contexte marqué par la pensée grecque, a été influencé par un courant de pensée dominant de l'époque, qu'on appelle le platonisme, qui consistait à privilégier l'esprit sur le corps, et que le corps est considéré comme étant la prison de l'âme. Il faut s'en débarrasser. Et l'Église catholique en a été infectée, on parle de la pénitence, il y a des gens qui compriment, qui briment le corps. Dieu a dit de prendre soin du corps. Hein. Il dit de ne pas prendre le soin de la chair, mais pas de ne pas prendre soin du corps. Il faut prendre soin du corps. Bien manger fruits et légumes. Faire du sport si possibilité y est. Pour être en bonne santé. Si le corps n'avait aucune importance, pourquoi Jésus aurait pris le corps alors? Pourquoi Jésus serait venu dans un corps semblable au mien? C'est pour écraser l'infirmité. C'est dans le corps que nous servons Dieu. Nous avons partagé avec les conseillers que dans le ciel, le corps ne servirait à rien. Il serait un corps subliminal. Pour servir Dieu, c'est ici, le corps a de l'importance. Dans le ciel, ce serait l'esprit qui privilégie. Mais sur la terre, les deux, le corps et l'esprit, sans le corps, comment on peut évangéliser? Dites-moi, sans le corps, vous m'aurez vu là? Qu'est-ce que vous aurez prêché? S'il y a quelqu'un d'invisible qui est là, qui vous parle, on va tous fuir. Parce qu'on n'est pas habitué. Et Dieu connaît notre attitude. C'est pour ça qu'il envoie toujours des supports humains. Dieu aurait pu faire un miracle comme ça de l'Égypte et envoyer les gens vers Canaan, mais il a choisi de passer par un corps qui est Moïse. Dieu a choisi Jésus pour nous sortir de là. Et Jésus a été identifié à nous et il connaît nos limitations. Il a souffert pour être capable de nous secourir. Voilà pourquoi la Bible a dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si le diable veut te détruire, Jésus est apparu, 1 Jean 3, 8, pour détruire les œuvres du diable. Il ne l'aurait pas fait s'il n'était resté qu'un esprit. Il a pris un corps comme le nôtre, qui a connu une limitation pour qu'il brise la limitation. Il a connu un corps comme le nôtre, il a connu la solitude, pour que toi, tu ne sois plus seul. Il a ouvert la porte de la présence de Dieu pour que nous y entrons maintenant, sans intermédiaire. Jésus. Aucun mouvement de l'eau n'a été utile à cet homme. La loi n'a pas été utile à lui. Mais Jésus est venu vers lui. Ce n'est pas lui qui est venu vers Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers lui. Voilà un des aspects du christianisme. C'est Dieu qui vient vers nous, malgré notre état. C'est lui qui tend la main. C'est lui qui nous relève. Lève-toi. Prends ton lit. Marche. Cet homme, pendant 38 ans, il ne doit pas avoir des muscles qu'il faut. La science médicale aurait dit que même attends, il faut bien que le kiné vienne te masser pour te redonner une éducation à tes muscles. Mais Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit Marche à l'instant. Et même si au début c'est difficile, au fur et à mesure que tu vas marcher, tu vas affermir tes muscles. Le miracle de Dieu commence au moment où j'obéis au premier pas. Dieu ne fera pas que les muscles reviennent et qu'ils grossissent du premier coup en 2 secondes. Même si pour le vin, un bon vin, il faut beaucoup d'années pour avoir de bon vin. Mais Jésus a fait avec un claquement de doigts, on a devenu du grand cru. Que même Élisée n'avait pas dans sa cave, hein, ce que Jésus avait donné à manger, là, à boire. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le péché offre la possibilité au diable de bloquer notre destin. Mais Jésus est venu pour renverser ce que le diable a voulu renverser, pour remettre tout à l'endroit. Jésus nous a donné le pouvoir. Nous sommes délégataires de l'autorité de Christ. Voici le pouvoir que je vous ai donné. Donc marchez sur le serpent et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne peut vous nuire. Il est dit ici marchez, hein? Pas assis. Si on ne marche pas, l'ennemi nous pique, le scorpion nous pique. Mais si nous sommes en mouvement, c'est nous qui lui écrasons la tête. L'Église est beaucoup assise. Il a beaucoup reçu les piqûres des scorpions. Il a beaucoup reçu les venins de la part du serpent pour dénaturer l'Église de Jésus. Mais le Seigneur veut nous rétablir. Il y a un antidote dans son sang qui stabilise et qui détruit tous les venins du serpent. Et même les scorpions n'ont aucun pouvoir sur votre vie aujourd'hui. Non seulement le vôtre, mais pour vos enfants, vos petits-enfants, parce qu'il veut détruire les générations. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui est souffrant? Je crois qu'ici, l'onction de Dieu va agir. On va prier. On dira au Seigneur, oh, interviens. Que le diable, il vient prendre ses bagages et qu'il s'en aille et qu'il nous laisse tranquille passer la fête de Noël avec nos enfants et nos petits-enfants. L'homme est dans le matériel et dans le tangible. Mais Dieu, il est dans le surnaturel. On ne peut pas chercher quelque chose de matériel pour trouver une solution surnaturelle. Dieu apporte la guérison surnaturelle, spirituelle. Et c'est la volonté du Seigneur. Vous savez, je touche ce point et j'arrête. Jésus avait l'habitude de susciter la foi chez ses auditeurs. Et quand il voit la foi, il dit... Ta foi, mais celui-là, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. On allait dire, comme tu n'as pas la foi, mais tant pis. Jésus a absorbé son incrédulité, il a mis son amour à la place. L'amour de Jésus, la compassion de Christ a absorbé l'incapacité de cet homme. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Le temple dans lequel... On t'a empêché d'y aller, verset 14, s'il te plaît. Après cela, Jésus le trouva où ? Dans le temple, où il a été mis dehors, là. Jésus ne guérit pas la manière des médecins pour que vous allez cavaler et vous faites votre 400 coups. Quand Jésus vous guérit, il vous intègre à l'Église. Il vous intègre dans son corps. Il vous intègre pour élément de témoignage. Vous demandez la guérison, pourquoi? Jésus est en train de le montrer. Si tu as demandé la guérison et que tu es guéri, allez, tu vas au temple. Prions. Seigneur, que ce message prenne place en nous, qu'il nous renvoie dans les réalités de notre vie. Tu n'envoies jamais sa parole sans qu'elle atteigne son but. Merci Seigneur.